Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien? On poursuit notre série « La prière pour les nuls ». La barre n'est pas trop haute, c'est bon? C'est pour tout le monde? Je me rappelle, avant de devenir chrétien, je me rappelle pas j'avais quel âge, j'étais peut-être en secondaire 5, puis j'étais pas chrétien à l'époque, je connaissais tout sur l'Évangile, j'ai été élevé pratiquement dans cette église-ci, mais j'étais pas chrétien, et puis bon, il m'arrivait de faire des grosses bêtises. Puis je me souviens, un soir, j'étais complètement désespéré parce que, bon, j'étais dans un collège privé, puis j'étais menacé d'être viré du collège pour toutes sortes de niaiseries qu'on avait fait, mon frère et moi. Et je rentre à l'appartement où je vivais avec mon père pour réaliser que j'avais pas les clés pour rentrer, que mon père était pas là, que j'allais passer la nuit je sais pas où. Puis, j'ai sorti mon paquet de cigarettes, j'ai défait mon paquet de cigarettes. Je me souviens, je l'ai gardé, puis là, j'ai écrit une prière à Dieu. Le genre de prière, tu sais, désespérée. Si tu me sors de là, Seigneur, on fait un deal, tu sais. Mais je me souviens que j'ai prié à ce moment-là. Et la semaine dernière, en commençant la série, on a dit, la prière, c'est ce que tous les cœurs humains ont tendance à faire, au moins dans des moments de désespoir. Et pour le chrétien, c'est notre arme secrète, parce que Dieu, lui, est toujours présent et j'ai toujours accès à lui. Je peux toujours me tourner vers lui dans les moments de pire solitude qu'on peut expérimenter. Et donc, si tu veux grandir dans ta vie de prière, cette série-là est extrêmement pratique. On a dit aussi la semaine dernière qu'en même temps, c'est hyper simple, la prière. Je veux dire, une des premières choses qu'on fait avec nos enfants, on leur apprend à prier, puis là, ils sont fiers et ils construisent quelque chose qui a de l'air d'une prière avant le repas, puis ils répètent un peu ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est simple. Mais en même temps, si on veut être honnête, pour beaucoup de chrétiens, prier pour la peine, là, pas juste 2 minutes avant un repas, mais prendre une demi-heure, prendre 1 heure dans la prière, seul avec Dieu, c'est extraordinairement intimidant pour beaucoup de personnes. J'ai souvent partagé à l'Église ici mon expérience personnelle et moi-même, ça a été tout un défi de grandir dans ma vie de prière. Alors, ce qu'on voit à travers cette série-là, c'est une approche qui est très simple, très pratique. Personnellement, ça a été vraiment un encouragement énorme pour moi. La semaine dernière, on a vu 3 premiers éléments de la prière. Cette semaine, on va en voir 3 autres, donc je vous invite à aller récapituler en allant écouter le message de la semaine dernière sur les médias sociaux. Mais je veux simplement introduire le passage que Josiane va venir nous lire. Je vous invite à être attentif à ce qui va se passer entre Dieu et Jacob dans ce passage-là. Regardez comment Jacob négocie, je veux dire comme ça, avec Dieu. Et on va parler de ça ensemble ce matin en apprenant sur la prière. Et on va prier tout de suite pour commencer. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que nous croyons que tu es présent. Tu es ici avec nous, par ton esprit au milieu de nous. Tu es partout sur la terre, mais tu nous dis dans ta parole que tu habites au milieu des louanges de ton peuple et on vient de te chanter, Seigneur, un chant de louange. On te demande, Père, de venir nous rencontrer ce matin. Viens nous parler par ta parole. Viens nous faire grandir dans ce geste-là extraordinaire d'intimité avec toi qui est la prière. Viens, Seigneur, démystifier ça, rendre ça accessible. Viens nous aider à croire que tu nous attends dans ce lieu-là de prière et que tu veux nous rencontrer. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bon matin. La lecture de ce matin est dans les livres de Genèse, chapitre 32, du verset 1 à 14, nouvelle édition de Genève. Genèse, chapitre 32, verset 1 à 14. Jacob poursuivit son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des champs, des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, « Je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit.
Merci, Josiane. Alors, c'est pas dans nos habitudes, mais je vais faire une drôle d'annonce. Il y a une voiture Elantra dont l'immatriculation se termine par MZP qui doit absolument être déplacée. Vous pouvez aller voir, je suis sérieux là, c'est pas une blague, je m'excuse de rire, mais elle doit absolument être déplacée. Donc, si c'est votre véhicule, on vous demanderait d'aller la déplacer. Vous pouvez aller voir Miguel à l'arrière. Une Elantra dont la plaque termine par MZP. Hey, on ne fait pas ça ici. Mais bon. OK. Comment grandir dans la prière? Comment grandir dans la prière? On va afficher le cadran. Dans le fond, on prend une approche très simple. Je ne reprendrai pas toute l'explication de la semaine dernière, mais c'est vraiment un petit livre très simple, là, The Hour That Changes the World de Dick Eastman, qui propose 12 aspects différents d'une vie de prière. Moi, ça a été une bénédiction énorme. Tim Kerr, qui m'a coaché sur la prière, qui est un homme de prière incroyable, il m'a dit, « Yannick, c'est le livre le plus simple que j'ai lu sur la prière, puis c'est le livre qui a changé le plus ma vie de prière. » Et donc, alors que je faisais du coaching avec quelqu'un, il me dit, « Yannick, il faut que tu partages ça avec l'Église. » Puis à bien y penser, je me suis dit, « Oui, ça rend les choses tellement accessibles. » La semaine dernière, on a vu ensemble trois aspects de la prière, la louange, l'attente dans la prière et la confession. Et ce matin, on en voit trois autres. Donc, c'est l'opportunité pour toi de grandir dans ta vie de prière avec une approche qui est très, très simple. Et si tu es là, puis tu vas dans la prière, puis tu dis, « Moi, il me semble là, que lorsque j'ai prié, je ne sais pas, moi, 8 minutes et quart, j'ai plus rien à dire à Dieu. C'est pas, je ne vais pas l'offenser. C'est, j'ai fait le tour, ma liste est passée, je lui ai dit combien il était beau et merveilleux, puis je ne sais plus quoi dire. » Bien, tu vas découvrir à travers cette approche-là la richesse de la prière et toutes sortes de formes de prières différentes qu'on trouve à travers les Écritures. Et c'est l'opportunité vraiment de grandir dans ta vie de prière de manière très concrète. Et je suis allé aussi loin la semaine dernière que de vous encourager même à déterminer à l'avance combien de temps vous voulez passer dans la prière. Alors, je sais que ça va de l'air un peu gaga, mon affaire, mais ça fonctionne très, très bien. Moi, je vous encourage à dire, « OK, à la fin de la série, j'aimerais ça prier 1 heure. » Mais ça veut dire que tu vas prier 5 minutes pour chacun des éléments. Tu vas passer 1 heure. Si tu dis, « Ouais, 1 heure, c'est peut-être un peu beaucoup. » Je voudrais prier 30 minutes. Tu vas prier 2 minutes 30 par élément. Et moi, je t'encourage à te servir carrément d'une minuterie au début pour oublier le temps, puis te concentrer sur ce temps de prière-là. Et encore aujourd'hui, moi, ça m'aide énormément. Je ne sais pas si je suis TDA, mais mon cerveau s'en va partout. Et lorsque je pars ce temps-là, puis que je m'arrête avec Dieu, j'ai des temps vraiment extraordinaires avec le Seigneur. Et puis après ça, tu trouves une grande liberté pour prier à tout moment, dans toutes sortes de circonstances. Et donc, je t'invite à t'ouvrir à cette possibilité-là de réviser ton approche à la prière. Puis si tu dis, écoute Yannick, moi je suis quelqu'un de prière, moi je fais des 24 heures de prière, j'arrête plus de prier, tu sais. Mais peut-être qu'il y a des aspects de la prière que tu ne connais pas. Donc, je t'invite quand même à embarquer avec nous. Maintenant, si tu veux grandir dans la prière, avant de quitter ce matin, tu vas devoir avoir déterminé où est-ce que tu vas prier et quand est-ce que tu vas prier chaque jour cette semaine. Si tu ne fais pas ça, je te garantis, la semaine va être passée et tu vas dire « Oh ouais, on est en train de parler de la prière à l'église. » C'est très, très concret. C'est l'aspect le plus concret de la prière. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'importance dans la prière de la parole de Dieu puis de l'Esprit de Dieu. C'est vrai pour toute la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on a besoin de sa parole, on a besoin de la Bible et on a besoin que son esprit nous conduise. C'est la même chose dans la prière et on voit ça ensemble ce matin. Dans le courriel de cette semaine, j'écrivais, si vous ne l'avez pas lu, je vais revenir sur une illustration que j'ai utilisée. Vous savez, quand quelqu'un vient te voir et dit tu m'avais promis que... » Ça part toujours mal, ces conversations-là. Hein? Tu es un peu nerveux. Ou quelqu'un dit « Ouais, tu m'avais dit que... » Puis là, on devient un petit peu nerveux. Puis là, on a peur de se faire prendre au piège. Puis bon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-tu vrai? T'sais? Puis là, tu espères pouvoir au moins dire « Non, mais c'était pas tout à fait ça que j'avais dit. » Savez-vous quoi? Avec Dieu, c'est le contraire complet. Dieu aime énormément qu'on vienne à lui et qu'on dise « Dieu, tu as dit. » Tu as donné une promesse, tu as dit que tu serais là, tu as dit que tu prendrais soin de moi. Parce que Dieu n'a pas ce dilemme-là de dire « Oh, est-ce que je vais être capable d'être intègre avec mes paroles? » Est-ce que je vais être en mesure de respecter mes promesses? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu sais, j'en dis bien des affaires. Dieu ne se dit jamais ça. Il n'y a pas un moment où Dieu, à la fin d'une journée, il se dit « Eh, mes amis, des fois, je devrais me taire. » Jamais! Jamais! Chaque fois qu'il dit quelque chose, il le fait. Dieu honore sa parole. Et donc, le premier élément qu'on va voir ensemble ce matin, très concret, c'est prier la parole de Dieu. Apprendre à utiliser la parole de Dieu dans ton temps de prière. Et une des raisons les plus importantes, c'est que c'est ça qui m'amène à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque je prends la parole de Dieu pour prier, bien, je sais que je suis en train de prier selon sa volonté. Regardez ce que Jacob fait avec Dieu dans Genèse 32, verset 9. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit. » Intéressant, hein? Jacob tremble. Bon, il faut connaître l'histoire de Jacob. Disons que dans cette famille-là, c'est pas facile. Il y avait des conflits entre frères qui pouvaient finir dans le sang. Et donc, Jacob rentre à la maison après avoir fait un coup pendable à son frère, qui est comme pas possible. Et puis là, on va le dire en québécois, il a la chienne. Fait qu'il a peur de rentrer à la maison. Là, il prépare des cadeaux, tout ça. Mais ce qui va lui donner de l'espoir, ce qui va lui donner de l'assurance, c'est de pouvoir dire à Dieu, « Tu m'as dit. » Et donc, à deux reprises dans ce passage-là, Jacob va prendre la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, puis il va dire, « Dieu, moi, j'ai besoin de te tenir à ta parole. Et j'ai besoin que toi, tu respectes ta parole. Parce que c'est juste là qu'est mon assurance. » Apprendre à prier avec la parole de Dieu, c'est ça qui nous assure qu'on est en train de prier selon la volonté de Dieu. Après tout, Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne va pas tout faire. Dieu ne va pas faire tous les fantasmes qui nous passent par la tête. Dieu merci. Dieu merci. Dieu va faire ce qui est bien. Dieu va faire ce qui est selon sa volonté. Et donc, lorsque je vais vers la parole de Dieu, j'apprends à prier selon la volonté de Dieu. Dick Eastman dit, « Le degré auquel nous croyons en la parole de Dieu et l'appliquons à la prière est le degré auquel Dieu déversera sa puissance pendant notre prière. » Parce que contrairement à toi et moi, Dieu aime se faire dire, « Ouais, mais Seigneur, t'avais dit ça. » Parce qu'il est intègre. Parce qu'il est intègre. Parce qu'il honore toujours sa parole. Ainsi, lorsque j'apprends à prier avec les Écritures, j'apprends à prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, on lit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Je vais vers les Écritures pour prier la parole parce que je veux prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'alors, je sais que j'ai l'attention de Dieu et que Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu va toujours honorer ses promesses. Pas toujours comme on veut, mais toujours selon sa sagesse. Intéressant, Jésus. Il n'y a personne qui est un homme de prière autant que Jésus-Christ. C'est Dieu le Fils. Il est en communion constante avec son Père. Et alors qu'il est dans le jardin d'Éden, à la veille, là, à quelques heures de se faire crucifier, il va faire cette prière. On lit ça dans Luc 22, 40-42. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez », il s'adresse à ses disciples, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est fort quand même. La Bible nous révèle que Jésus est Dieu le Fils. Et Jésus avait comme premier souci, lorsqu'il priait son Père, que ce soit la volonté du Père qui s'accomplisse. C'est fascinant. C'est fascinant. Et donc, lorsque j'apprends à prier à partir de la parole de Dieu, c'est pas que je suis dans une position pour faire une clé de bras à Dieu. Tu l'as dit, fait que tu vas le faire. Non, c'est pas ça. Dieu est plus sage que moi. Dieu peut répondre à ma prière de bien des manières en honorant sa parole. Dieu peut me dire oui, mais pas maintenant. Dieu peut me dire non, ce n'est pas selon ma volonté. Dieu peut rester en silence. Donc, ce n'est pas que j'ai le pouvoir de faire une clé de bras à Dieu. Mais je sais que je suis en train de prier selon sa volonté. Et ce que je veux, c'est que ce soit le meilleur qui se produise. Et le meilleur, c'est sa volonté. Comment est-ce qu'on apprend à prier la parole de Dieu? Bien, ça peut être simplement en lisant la Bible. Plusieurs d'entre vous, vous êtes avec nous, on fait un plan de lecture de la Bible cette année. Vous avez peut-être votre plan de lecture, mais tu lis les Écritures et à partir du passage que tu es en train de lire, tu dis, OK, je vais prendre ça pour inspirer ma prière. Tu es en train de lire Genèse 32 et tu dis, Seigneur, je vois que Jacob est nerveux à cause de ses vieux péchés. Mais je vois qu'il a espoir dans ta grâce, Seigneur. C'est ça qu'on voit dans ce passage-là. Je vois qu'il espère en toi. Mais moi aussi, des fois, Seigneur, il m'arrive de me rappeler des gaffes que j'ai faites, des méchancetés que j'ai eues, des choses qui sont lourdes de conséquences. Veux-tu, dans ta grâce, me pardonner et m'éviter les conséquences de ces actes-là? Je viens de prier à partir de Genèse 32. Donc, c'est possible simplement de lire ta Bible le matin, puis de dire, comment est-ce que je peux prier à partir de ce passage-là? Très simplement. Une autre manière de le faire, c'est de choisir des versets qui sont importants pour toi, sur lesquels tu aimerais méditer, que tu aimerais mémoriser en 2023. Et donc, lorsque tu veux prendre un temps où tu pries à partir de la parole de Dieu, puis tu dis, peut-être le passage de ce matin il était un peu abstrait pour moi, je ne vois pas vraiment comment je pourrais prier avec ça. Tu t'en vas vers ces versets-là que tu es en train de mémoriser. J'ai personnellement une dizaine de versets clés ou de passages que j'ai choisis déjà en début d'année, puis je dis, ceux-là, je vais y retourner constamment dans l'année pour prier, pour méditer. Des passages qui m'inspirent la foi, des passages qui me rassurent, des passages qui me parlent de la gloire de Dieu. Puis moi, je les ai carrément là, dans mon application. Puis quand je m'en vais dans la prière, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous partager mes petits trucs à moi, mais avant d'aller dans un temps de prière dans ma journée, je vais aller ouvrir cette section-là. Parce que quand il va venir le temps de prier la parole, si je n'ai pas eu quelque chose qui m'a inspiré directement dans ma lecture, je vais me tourner vers ces passages-là. Et je vais prier ce passage-là. Littéralement, je vais aller dedans, puis je vais le prier. Il y en a qui sont extrêmement pratiques. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, je vais le prier, je vais m'appliquer, je veux pas m'inquiéter. Il y en a d'autres qui nous parlent de la grandeur de Christ, de la beauté de Dieu. Puis je dis, Seigneur, je veux juste te contempler, je veux simplement reconnaître que tu es Dieu. Et peut-être pour vous aider de manière très concrète aussi, la semaine dernière, je parlais de Tim Kerr qui m'a coaché sur la prière. Il y a deux livres, dans le fond, que je vous recommanderai pendant la série. Celui-là est en français aussi, il est aussi disponible en français. On l'a d'ailleurs, on a une table de livres ce matin. Mais c'est Tim qui l'a fait, celui-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a recensé des centaines et des centaines de passages dans les Écritures qui peuvent être utilisés dans la prière, et puis il les a regroupés. Donc, tu prends un temps de prière pour prier pour ta famille. Voici des passages que tu pourrais utiliser. Tu prends un temps de prière pour des collègues au travail, pour une situation qui t'inquiète, pour tes finances personnelles. Et là, tu apprends tranquillement à prier les Écritures. Donc, ce sont des beaux outils pour apprendre à prier les Écritures. Maintenant, pourquoi? Une deuxième raison pour laquelle on prie à partir de la Bible, bien, c'est pour avoir de la foi et de l'assurance lorsqu'on est en train de prier. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend. On ne grandit pas dans notre foi, dans la prière, simplement en lisant des livres sur la prière. Moi, j'ai lu 26 livres sur la prière. Maintenant, je suis un homme de prière. Ça ne fait pas nécessairement grandir la foi. Tu apprends à prier. Ou encore en lisant des récits de Georges Muller qui priait, puis là, le Seigneur pourvoyait aux orphelinats, puis c'était incroyable. Souvent, c'est comme ça t'excite à la prière, mais là, tu te dis, OK, ils ne sont pas faits de la même... On n'a pas été découpés dans le même vêtement, là, tu sais, on n'a pas été faits du même tissu, lui puis moi, là. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Notre foi dans la prière grandit au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la parole de Dieu et à prier à partir de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Les expériences qu'on vit dans la vie peuvent venir fortifier notre foi. Mais ce qui fait naître la foi, ce qui nourrit fondamentalement notre foi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je lis la Bible pour connaître Dieu et pour grandir dans ma foi. Et donc, je prie à partir de la Bible pour prier avec assurance que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu, que Dieu me donne des promesses qu'il va accomplir. J'apprends à découvrir à travers les Écritures que Dieu fonctionne souvent avec des promesses. Et je peux rappeler à Dieu ses promesses. Dans le psaume 119, verset 49-50, on lit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Et donc, j'apprends à aller vers les promesses de Dieu puis dire, « Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis. Tu as donné ta parole. » Voyez-vous, lorsqu'on va dans la prière, un des défis, c'est de prendre plaisir à prier, mais un des défis, c'est de croire. On lutte beaucoup avec l'incrédulité dans la prière. C'est normal. Puis si tu commences, si tu as une requête que tu amènes à Dieu depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va y avoir des moments d'incrédulité où tu dis, « Seigneur, viens au secours de ma foi. » Mais la foi vient de la parole de Dieu. Et donc, lorsque j'apprends à intégrer, à prier avec ma Bible ouverte, j'ai la possibilité d'apprendre à prier selon la volonté de Dieu et j'ai la possibilité de grandir dans ma foi dans la prière. C'est simple à faire. C'est simple à faire. Tu prends ton temps et tu dis, « Là, Seigneur, je prie à partir des Écritures. » Et donc, si vous nous suivez, vous avez commencé par un temps de louange. Vous avez pris un temps ensuite de silence juste pour vous apaiser dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. » Comme un vieux couple qui est amoureux et qui se connaît comme c'est pas possible. Puis des fois, c'est juste de se regarder puis on se dit, « On sait ce que ça veut dire. » Pas besoin de dire rien d'autre. On fait juste jouir de la présence l'un de l'autre. Le troisième élément qu'on a vu, c'est la confession. Prendre un temps qui est dédié à laisser l'Esprit de Dieu repasser ta journée puis dire, « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose où j'ai manqué envers quelqu'un, envers toi, j'ai péché, j'ai été cheap, j'ai été égoïste, j'ai été méchant, j'ai manqué l'opportunité de faire quelque chose de bien par égoïsme. » Et ça, c'est un temps de confession. Et ce qu'on voyait la semaine dernière, c'est vraiment l'idée de dire, bien, j'attribue un temps pour confesser, puis je laisse le Saint-Esprit me rappeler des choses. C'est fascinant. C'est fascinant. Et c'est pas que c'est quelque chose d'écrasant. C'est écrasant si tu connais pas l'Évangile. Si tu connais pas la grâce, je veux dire, prendre un temps pour faire ça, c'est comme... OK, on va aller se flageller, là, c'est ça l'histoire, là. On va aller faire pénitence. Non, les chrétiens ne font pas pénitence. Je suis désolé, on ne fait pas pénitence. Je m'en vais dans la présence de Dieu dans la prière. Je m'adresse à Dieu. Puis je dis, Seigneur, rappelle-moi si j'ai été en dessous de tes standards aujourd'hui. Puis le Saint-Esprit va te rappeler une circonstance, un regard, une parole, un geste. Un geste qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu. Et parce qu'on connaît la grâce, c'est l'opportunité de dire, Seigneur, je te le confesse. Je dépose ça à tes pieds et je te demande de me transformer. Et mon cœur est en paix avec Dieu. Je savoure la grâce de Dieu. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bien là, je peux prier la parole de Dieu. Prendre un temps pour prier à partir de la parole de Dieu. Prochain élément, ça va vous étirer un peu, c'est observer le monde. C'est apprendre à prier, on pourrait dire, avec les yeux ouverts. Apprendre à observer autour de vous. Les gens qui prient peu ou qui trouvent la prière difficile, souvent, essentiellement, amènent leur requête personnelle, prient pour leurs proches, ce qui est absolument important, on va le voir ensemble, remercient Dieu pour ce qu'il a donné, et ensuite ne savent plus où aller. Maintenant, moi, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là, et on va voir pourquoi je crois même que c'est biblique. Apprendre à prier en considérant le monde qui est autour de toi. Tes collègues de travail, la famille, comment ça va, la ville où est-ce que tu habites. Personnellement, quand je prends mes temps réguliers de prière, je vais volontairement prendre le temps juste de survoler les nouvelles. Là, vous allez dire, c'est la dernière chose à faire, il y en a que tu ne prendras pas un temps avec Dieu. Mais si ça t'empêche de te rendre là, fais-le pas. Mais moi, ça m'aide. Je prends 5 minutes, je les survole, je ne lis pas des articles. Mais je me prépare pour ce temps-là. Parce que je veux être en éveil puis dire, qu'est-ce que l'Esprit va m'amener comme requête de prière lorsque je vais considérer plus que moi? Plus que juste mes besoins à moi. Lorsque je vais considérer ma ville, ma province, mon pays. Lorsque je vais considérer les gens autour de moi à l'église. Lorsque je vais considérer mon quartier. C'est intéressant. Jésus dit à ses disciples dans Marc 14, il parle de veiller et de prier. C'est vraiment intéressant. Marc 14, verset 37-38, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors! » Là, Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Il souffre sa vie, littéralement. Je veux dire, il sait qu'il s'en va à la croix. Là, il reproche à Simon, il a dit, « Les gars, je vous demande de prier pour moi, je vis vraiment un moment difficile. » Il revient une heure après, les gars sont en train de dormir. « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. » Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller? C'est quoi le lien entre veiller et prier? Veiller, c'est être vigilant. C'est faire une vigie. C'est un moment où tu veilles sur quelque chose, tu prends soin. Et donc, Jésus est en train de dire à ses disciples, allez dans la prière simplement pour parler à Dieu, chercher la face de Dieu, savoir que vous êtes faible, vous pouvez tomber. Et donc, il parle de veiller. C'est vraiment intéressant. Puis, Pierre va apprendre l'importance de veiller. Plus tard, dans 1 Pierre, il va dire, dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et donc, Pierre avait appris l'importance de veiller sur ton âme, puis d'examiner, d'aller dans la prière, puis juste considérer toutes sortes de situations que Dieu peut amener à toi. Voyez-vous, la prière, ce n'est pas là simplement pour y aller de mes besoins ressentis urgents, mais c'est un moment où je regarde le monde comme Dieu le regarde. Puis je laisse Dieu m'amener toutes sortes de requêtes. Il y a un beau passage dans Ésaïe 62, versets 6 et 7, Ésaïe, c'est un livre prophétique, donc ce sont des images. Puis Dieu dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche. jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Donc, c'est une image. Le prophète dit, « J'ai placé sur les murs de la ville des veilleurs qui sont là pour veiller. » Et ces veilleurs-là ne sont pas là pour regarder au loin s'il y a une armée qui s'en vient pour nous attaquer. Ils sont là pour intercéder auprès de Dieu constamment en faveur de Jérusalem, d'Israël. Ces veilleurs-là sont là pour rappeler à Dieu le souvenir de sa ville Jérusalem. C'est ça, veiller et prier. Et donc, Dick Eastman nous dit, « Prends le temps de t'arrêter et de dire, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu voudrais que je prie aujourd'hui? Montre-moi des besoins dans l'Église, dans ma famille, autour de moi, où je ne travaille pas avec ma liste de prières, ma liste de requêtes, les besoins urgents. C'est un moment d'ouverture où je dis, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je prie? » Personnellement, c'est dans ces moments-là où je prie pour nos gouvernements. Je prie pour le salut de nos gouvernements. C'est là que je prie, par exemple, beaucoup de ce temps-ci pour l'Iran, avec les souffrances incroyables qu'il y a là-bas. C'est dans ces moments-là que je prie pour l'Ukraine. C'est dans ces moments-là que je prie plus largement pour l'Église, pour l'état de l'Église. Mais c'est juste un moment où je suis disponible et j'observe. C'est comme si je priais avec les yeux ouverts. Et ça m'amène à vous mentionner quelque chose d'autre par rapport à la prière, et j'espère que vous allez le vivre de plus en plus en grandissant dans la prière. Il y a un passage qui est un peu énigmatique dans Éphésiens 6, 18, on lit ceci. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour tous les chrétiens. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Une des choses qui va ressortir à travers toute la série sur la prière, c'est d'apprendre à accepter les moments de silence. C'est d'apprendre à faire confiance que Dieu peut amener dans votre cœur des requêtes de prière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il dit « prier par l'Esprit » Mais c'est d'avoir confiance que l'Esprit de Dieu, parce que j'ai pris un temps pour adorer Dieu, j'ai pris un temps pour apaiser mon cœur dans sa présence, j'ai pris un temps même pour confesser, j'ai pris un temps pour prier sa parole afin de chercher sa volonté. Bien, je peux avoir confiance que l'Esprit de Dieu est là et qu'il est en train de me conduire dans des prières qui sont selon sa volonté, qui ne sont pas des prières égoïstes, qui ne sont pas des prières charnelles, mais qui sont des prières inspirées par Dieu. Et ça va vous demander d'apprendre à côtoyer le silence dans la prière, à quitter l'anxiété de dire « Ouais, ça fait 30 secondes que j'ai rien à dire, là. La prochaine fois, je vais préparer une plus longue liste. » Non, vous pouvez juste dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je te prie? J'ai les yeux ouverts, j'observe le monde. » C'est figuratif, vous comprenez? J'ai les yeux ouverts. Mais mon cœur est disponible. Pourquoi est-ce que tu veux que je prie, Seigneur? Je vous dis, vous allez vivre les plus beaux moments de prière que vous avez vécu de votre vie. Dans ces moments-là où vous êtes disponible, ce n'est pas qu'on commence à prier pour n'importe quoi. Je viens de prendre un temps pour l'adorer, je viens de prendre du temps dans sa parole, pour prier sa parole, je suis disponible. Et le Seigneur va venir vous donner des requêtes de prière. Vous êtes habité par l'Esprit de Dieu si vous êtes chrétien. Si tu es chrétien, l'Esprit de Christ habite en toi. Il peut susciter dans ton âme des requêtes de prière spontanément là. Puis il va te ramener des choses pour lesquelles tu as prié la veille. Puis là, ça va revenir sur ton cœur. Puis tu vas dire, « Oui, Seigneur, j'ai à cœur que tu délivres ces gens-là. C'est abominable ce qu'ils vivent. C'est inacceptable. » Puis tu vas prendre ça à cœur. Puis l'Esprit de Dieu est en train de te conduire dans ça. C'est cet aspect d'observer plutôt que simplement prier pour mes requêtes personnelles. Mais d'être disponible, puis de dire, « Dieu, pourquoi est-ce que tu voudrais que je prie? » Et je vous assure que vous allez vivre des moments doux avec Dieu. Vraiment des moments très agréables. Donc, on a vu ensemble prier à partir de la parole, prier en observant le monde. Puis la dernière, c'est la prière d'évangélisation. Et là, j'ai même modifié un peu l'approche de Dick Eastman. On l'a mis, c'est quelqu'un d'autre qui me l'avait suggéré. Mais on a mis la prière d'évangélisation. Apprendre à prier pour tous les hommes pour leur salut. Vous savez, spontanément, lorsqu'on est chrétien, on prie pour nos proches. Du moins, on essaie d'être fidèle pour prier pour nos proches. Ceux autour de nous qu'on aime tendrement, puis on aimerait ça qu'ils aient cette joie-là de connaître Jésus-Christ. Puis on prie pour eux. On sait que ça va se passer entre Dieu et eux. Mais apprendre à prier pour tous les hommes. Dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, on lit « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut qu'on prenne du temps pour prier pour le salut de tous les hommes, tous les êtres humains sur la terre. Et donc, je dédie dans mon temps de prière un temps de prière pour l'évangélisation. Et je prie évidemment pour mes proches, ceux qui sont tellement chers à mon cœur. Je dis, Seigneur, viens leur parler. Viens leur faire entendre ta voix qu'ils désirent découvrir l'Évangile. Mais je continue encore à prier. Encore une fois, c'est un des endroits où je prie pour nos gouvernements. Je prie pour le salut de nos premiers ministres, leurs familles. Ils évoluent dans des sphères où ils sont dans des bulles. Ils sont peut-être tellement loin de quelqu'un qui pourrait leur présenter l'Évangile. Puis je dis, Seigneur, envoie quelqu'un. Envoie un émissaire qui va avoir accès à leur cœur. Leur esprit est distrait par tout ce qu'ils ont à gérer. Mais toi, Seigneur, tu sais nous parler même lorsqu'on est distrait. Puis je prie pour le salut de tous les hommes. Parce que Dieu veut que je le fasse. Je prie aussi, lorsque dans ma prière d'évangélisation, je prie pour que Dieu dirige les évangélistes. Il y a des implanteurs d'églises, il y a des gens qui ont un don vraiment dans l'évangélisation pour annoncer l'Évangile. Je prie pour que Dieu ouvre des portes pour ces gens-là. Dans Éphésiens 6, versets 19 et 20, c'est l'apôtre Paul qui parle, puis il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec courage, hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Il est prisonnier à ce moment-là. « Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Et donc, je prie pour les implanteurs d'église, je prie pour les évangélistes dans l'église, je prie pour ceux qui constamment, Dieu leur a donné un don à témoigner constamment. Je dis, Seigneur, ouvre-leur les portes, conduis-les, fortifie-les, donne-leur du courage. Puis une des choses qui est fascinante avec la prière d'évangélisation, c'est que c'est peut-être la prière qui nous conduit le plus dans ce mystère du fait que Dieu est souverain, puis l'être humain a la responsabilité de choisir Dieu. Si ça fait longtemps que vous priez pour des proches, vous vous battez avec ça constamment. Tu pries pour leur salut, puis tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui sauves, tu es souverain. C'est Jésus qui dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est ça que je veux dire lorsque souvent vous m'entendez dire, si tu entends la mélodie de l'Évangile, si ce message-là est plus simplement théorique, mais ça commence à résonner dans ton cœur, tu dis, « OK, Jésus n'est pas simplement mort pour tous les pécheurs. » Non, non, il est mort pour moi, pour mes péchés à moi, pour que je puisse faire partie de la famille de Dieu. Mais quand tu commences à quand ce message-là passe de la théorie à quelque chose de très personnel, ça t'interpelle. J'appelle ça la mélodie de l'Évangile. C'est Dieu qui fait entendre sa voix, qui est en train d'appeler. Et donc, lorsqu'on prie pour nos proches, on entre dans ce mystère-là où c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui sauve. Mais clairement, chaque être humain est responsable de répondre à l'appel. Et donc, je vais prier, je vais dire, Seigneur, je te demande de leur faire entendre la mélodie de l'Évangile. Fais-leur entendre ta voix, attire-les à toi. Comme j'ai senti personnellement, ça a été ça mon expérience, dans les derniers temps avant ma conversion, c'était littéralement un appel irrésistible. Je n'étais plus capable de dire non à Dieu. C'est la grâce que j'ai vécue. On vit tout ça de manière différente. Mais je prie ça. Mais je prie aussi pour eux directement. Seigneur, confronte-le à ses choix. Aide-le à réaliser dans quelle direction il s'en va. place sur son chemin quelqu'un qui va lui annoncer l'Évangile encore une fois. Et enfin, prier l'Évangile, ben, c'est faire comme Job qui priait pour sa famille. Job, ce personnage extraordinaire dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il faisait? On lit dans Job 1, verset 5, lorsque ses enfants étaient un petit peu trop sur la fête. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. On est dans l'Ancien Testament. Il offrait un sacrifice pour chacun d'eux. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien avant ma conversion, bien avant que je devienne chrétien, bien avant que mon frère devienne chrétien, c'est ainsi que ma mère avait coutume d'agir. Je l'ai souvent raconté à l'église ici, puis ceux qui étaient là à l'époque, vous allez pouvoir vous rappeler, ma mère en était fatigante. Dans les temps de prière en église, ma mère se levait et elle disait, « Seigneur, je te prie pour mes deux fils, Hugo et Yannick. J'ai confiance que tu peux les sauver, Seigneur. » Elle avait coutume d'agir ainsi. Puis quand le pasteur a dit, « OK, maintenant, on va prendre un temps d'action de grâce. On va remercier Dieu. Ce n'est pas le temps pour les requêtes. Tantôt, on va mettre les requêtes. » Ma mère, elle disait, « Merci, Seigneur, parce que mes fils vont se convertir. » Ma mère avait coutume d'agir ainsi. Sois Job pour ta maison. Sois comme Job pour ta maison. Intercède en faveur des tiens à tous les jours, que ce soit une coutume dans ta maison, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, dans la chair qui ne connaissent pas Christ, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Sois celui et celle qui se tient à la brèche pour eux, qui demande la grâce de Dieu en leur faveur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On a vu 6 éléments jusqu'à présent sur la prière. Ma prière à moi, c'est qu'un grand nombre d'entre vous, vous grandissiez à travers cette série-là. Et c'est simple, vous avez à prendre la décision de consacrer un peu de temps à tous les jours cette semaine pour prier. Si vous dites à la fin de la série, j'aimerais prier 1 heure par jour, vous dites, je vais prendre 5 minutes pour chacun des éléments. Mais là, cette semaine, ça va te prendre 30 minutes de prier. Là, tu dis, aïe, aïe, je pense que je vais mourir 6 fois avant d'arriver au bout de 30 minutes. Non, mais tu sais, je vais m'endormir. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas apprendre comme moi que le meilleur moyen de prier, c'est de marcher. Moi, c'est comme ça que j'aime prier. Mais autrement, tu dis, ben, j'aimerais prier 1 demi-heure à la fin. Fait que je vais partir avec 2 minutes 30 chaque. Je sais que c'est simple, mais c'est concret. Et là, tu pars, puis tu prends le temps que tu as dédié pour louer Dieu. Comme on a dit la semaine dernière, comme lorsque je sors au restaurant avec mon épouse puis je dis, « T'es tellement belle, chérie. » C'est ça, la louange. C'est juste que là, je tourne mes louanges vers quelqu'un d'encore plus beau que mon épouse parce qu'il est absolument parfait, c'est Dieu. Et je lui dis combien il est merveilleux. Je lui dis ses qualités. C'est ça, la louange. Ensuite, je prends un temps de silence où je vais simplement jouir de la présence de Dieu comme un vieux couple qui a juste besoin d'être ensemble dans la même pièce. Lui est en train de lire, elle est en train de suivre sa série, mais on est ensemble. Puis ça nous fait du bien juste d'être là ensemble. Mais c'est ça que je fais dans ce temps-là d'attente. Je prends juste le temps de dire à Dieu, « Je sais que tu m'aimes. » Puis mon cœur veut s'apaiser, mon esprit veut s'apaiser, parce que pour l'instant, là, puis pour la prochaine demi-heure, tout ce qui compte, c'est toi et moi. Puis ensuite de ça, tu vas prendre un temps de confession. Il y a quelques éléments qui vont venir spontanément. Tu vas les confesser à Dieu. Tu vas te reposer dans sa grâce. Mais tu vas rester là. Tu vas dire, Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais me rappeler? Parce que je veux grandir, je veux t'honorer. Je ne veux pas laisser de domaine qui ne serait pas adressé. Puis là, il va te rappeler une conversation. Là, tu vas dire, ouais, c'est vrai, j'ai été malhonnête. Ces petits mensonges qu'on oublie tellement rapidement, hein? C'est fascinant. Puis là, tu vas avoir pris ce temps-là pour confesser. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier la parole de Dieu avec des versets que tu as mis à l'écart d'avance ou avec quelque chose qui t'a touché dans le passage. Et tu vas juste apprendre à prendre ce texte-là puis elle dit, voici ce que j'ai le goût de te prier à partir de ce passage-là. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu restes disponible pour toutes les requêtes que Dieu pourra amener sur ton cœur en observant le monde. Le monde autour de toi, au travail, dans ton quartier, dans la vie de tes enfants, les amis de tes enfants, peu importe, la ville, la province, le pays, le monde. Tu dis, Seigneur, donne-moi des requêtes. Inspire-moi des requêtes, Seigneur. Ça va être un moment doux. Puis ensuite de ça, tu vas prier pour le salut des hommes. Prier pour tous les hommes. Prier pour nos gouvernements. Dans cette prière mystérieuse où tu dis, « Oh, mais Seigneur, c'est toi qui sauves. Puis tu veux que j'intercède. » Parce que Dieu a décidé que c'est comme ça qu'il agissait. Et tu vas devenir comme Job. Tu vas prendre coutume de prier pour ceux de ta famille, te tenir à la brèche. Est-ce que Dieu te parle personnellement ce matin? Je ne te parle pas de Yannick. Moi, mon travail s'arrête ici. Ça va se poursuivre, je vais prier. Mais est-ce que Dieu te parle à toi personnellement ce matin? Est-ce que Dieu te convainc que c'est le temps de t'appliquer à grandir dans la prière? Ce que tu as à faire en ce moment, c'est décider, quand est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Où est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Puis demain? Puis combien de temps je voudrais y consacrer? Et c'est en toi puis le Seigneur, hein, c'est en toute liberté. Mais si Dieu te parle, je t'invite à répondre à son appel. Parce qu'il t'attend dans ce lieu de repos, de grâce, que s'appelle la prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es tendre et doux. Tu es doux et humble de cœur. Tu es disponible pour celui qui est malhabile, celui qui est maladroit. Seigneur, tu accueilles celui qui vient en balbutiant, tu accueilles celui qui vient avec culpabilité, parce que tu prends plaisir que nous venions à ta rencontre. Je prie, Seigneur, de chasser nos appréhensions, nos craintes devant la prière, mais chasser aussi notre paresse. Seigneur, convainc-nous de l'importance de cultiver cette relation avec toi comme toute bonne relation le demande, Seigneur. Mais davantage encore parce que tu es notre Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en train de te découvrir, qui découvrent ta parole, qui découvrent l'Évangile, cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Aide-les, Seigneur, à faire ce pas de foi de venir vers toi dans la prière, maladroitement, avec simplicité, mais simplement de dire, Seigneur, je veux te parler. Je veux faire ce pas de foi de te rencontrer. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est parce que tu t'es offert en sacrifice sur la croix que nous savons que nous sommes pardonnés de tout péché et que nous avons entièrement accès à toi, libre accès à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'aimons tendrement. Amen.